un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La scène se déroule il y a un peu plus d'un an dans le parc naturel du bassin d'Arcachon, à Gujan-Mestras précisément. Les pieds dans la vase, chaussés d'indispensables patins à vase et d'un bon caouet, armés d'un pistolet à semis, un drôle d'objet inspiré du pistolet à mastic, voici un petit groupe de bénévoles réunis pour semer des graines dans de petites grilles. Avant de tomber sur l'article de Sud-Ouest qui raconte cette histoire, je dois avouer que je n'avais jamais entendu parler des austères. Maintenant, je sais que les austères sont des herbes marines, des plantes aquatiques marines présentes dans toutes les mers des continents du globe. Et que les austères sont très importantes pour la biodiversité des fonds marins, la reproduction de nombreuses espèces, la stabilisation des substrats, bref, que les austères, c'est la vie. Or, dans le bassin d'Arcachon, depuis les années 2000, 85% des austères ont disparu à cause de canicules, de polluants et de l'augmentation des courants. Et c'est ainsi que cette vingtaine de bénévoles est d'abord partie en mer pour collecter des graines de austères en été et a attendu le début du printemps pour les semer. Ça vous semblera peut-être une goutte d'eau dans l'océan, une entreprise dérisoire ou dépourvue de sens, mais aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, ceux qui sèment et qui ressèment y trouvent du sens et de la beauté. Deux autres histoires de semeurs, des minuscules graines d'espoir par Élise Andrieux.
Je m'appelle Florence Massin et je suis la présidente de Semeurs de forêt. Tout a commencé donc il y a environ 5 ans. On s'est posé des questions avec mon conjoint face au changement climatique. On avait une forte éco-anxiété, donc vraiment des angoisses par rapport à ce changement, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis il y a eu un événement important pour nous qui peut paraître complètement anodin pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a un de nos voisins, on habite dans un quartier résidentiel avec de grands arbres qui sont centenaires. Et puis une personne est arrivée, un de nos voisins proches, et en fait il a décidé de couper 2 arbres bicentenaires, donc un magnifique érable et un magnifique chêne pédonculé, simplement pour faire une piscine. J'étais tranquillement en train de travailler de chez moi et puis tout d'un coup, on entend des bruits de tronçonneuse. Au départ, on a pensé que c'était un élagage. Et puis, on sort de chez nous, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» J'interroge le paysagiste, je vais le voir et je lui dis « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»« Ah ben, on est en train de couper. » Et je lui demande s'il a les autorisations, parce que bon, on est quand même dans un quartier où on a quand même besoin d'autorisation pour couper des arbres de cette hauteur-là. Et puis, je sais pas, faut voir avec le propriétaire. Donc nous, on est plusieurs à filer voir le propriétaire qui nous a juste dit, ben voilà, moi je peux faire ce que je veux, je suis chez moi. Et ils ont commencé par l'érable. Et l'érable était un magnifique arbre avec, enfin, il faisait déjà 30 mètres de haut. Enfin, c'est magnifique, hein, franchement. Et puis, on a essayé de défendre l'arbre. Donc, les paysagistes sont intervenus, mais la police est arrivée par-dessus. Donc, journée un peu particulière quand même. Et puis, finalement, les policiers ont juste constaté. Et puis, de toute façon, là, ils les avaient déjà coupé la moitié de l'arbre, donc c'était fini, quoi. Ils n'ont rien pu faire. Et donc, quand ils ont coupé le chêne, mais comme l'érable, hein, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, comme une espèce d'effondrement d'un équilibre. Il n'y avait plus un oiseau qui chantait, il n'y avait plus rien. C'était très spécial, en fait. Comme si, finalement, tout le secteur était en deuil, quoi. Donc, je suis restée avec cette sensation d'impuissance. Donc il y a eu des mois qui se sont passés et un jour d'août 2018, Nicolas Hulot, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, ministère de la Transition écologique, a démissionné en direct à la radio. Et je me suis dit, Mais si quelqu'un comme ça peut démissionner de son ministère, c'est qu'il peut vraiment rien faire. Ah, moi, ça m'a réveillée. Ça a été le truc qui a fait basculer. Et là, je me suis dit, il est temps d'agir. Et puis, avec ces questions-là, on a commencé à y réfléchir avec mon conjoint. Et puis, on s'est dit, de toute façon, il est temps de sortir de notre canapé et puis de faire des trucs. Et puis, un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de la forêt Miyawaki. C'est un botaniste japonais qui s'appelle Akira Miyawaki. Et ce botaniste, pendant 30 ans, il a commencé à essayer de trouver une méthode pour pouvoir reforester, notamment en milieu urbain. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut partir de cette méthode-là, planter des forêts, on va voir ce que ça donne. Et c'est là où on a créé notre association, qu'on a baptisée Semeur de forêt, en janvier 2019. Et puis, il y a quelques personnes qui sont venues, qui ont dit, ah oui, c'est super, on fait partie de l'aventure, et puis on y va. On a vraiment eu, depuis le départ, une envie de créer des endroits qu'on rend à la nature et faire en sorte que finalement ces espaces soient préservés, que la biodiversité puisse s'y développer et que même l'homme puisse pas forcément y accéder comme ça. Mais on s'est dit très très rapidement que si on voulait faire ça, il fallait qu'on achète les terrains. Et quelques mois plus tard, c'était en mai de la même année 2019, on trouve notre premier terrain qui se trouve dans l'Oise, dans une petite commune qui s'appelle Juvigny. Et puis, avec toutes les personnes nos copains, nos voisins, etc., on a tous mis un peu d'argent. Chacun a mis 1000, 2000, 3000 euros. Et avec cet argent, on a pu payer le terrain, en fait. Et on se dit, de toute façon, voilà, c'est pour commencer, on verra bien où ça nous mènera. On a attendu donc la période pour planter. Alors, c'était en décembre 2019. Alors, la journée, était assez épique. On s'est retrouvés avec nos copains, nos voisins, toujours. On était peut-être 7 ou 8. Et puis, il faisait froid. Et puis, on était avec nos grelinettes, nos bêches. Et donc, on s'était dit, on va faire ça bien, très écolo, tout ce qu'on veut. Hein. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait... quand même une terre très argileuse, très compliquée à travailler. Et puis là, on s'est dit, oups, on n'y arrivait pas. Donc, donc on n'arrivait même pas à faire un trou. C'était extrêmement compliqué. On avait 400 arbres à planter. On savait plus comment faire. Et puis après, on a quand même trouvé notre outil de prédilection qui était la tarière thermique. Donc, c'est une espèce de gros tire-bouchon avec un moteur. Et puis, on a fait des trous. Donc ensuite, on a fait une deuxième plantation sur ce même terrain, mais on en a planté sur un week-end en mars 2020. On en a planté 1000. Et là, on a été rejoint par près d'une vingtaine de bénévoles, des gens d'un peu partout et même de Belgique qui avaient entendu parler de ce qu'on faisait et qui se sont dit, on va œuvrer aussi. Et juste après, on a eu le confinement qui est arrivé. Et là, on s'est retrouvé face à une difficulté, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et pendant presque 2 mois et demi, parce que ça s'est fini en mi-mai, et on ne pouvait pas aller arroser. Et en fait, le printemps 2020, ça a été une période un peu compliquée pour les forestiers, parce que le printemps a été très très sec. Il y avait pratiquement pas eu de pluie pendant 2 mois. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec nos petits plans qui étaient sans eau et on s'est posé beaucoup de questions parce que moi, j'entendais des forestiers et même des pépiniéristes qui nous disaient qu'ils avaient entre 3 et 60% de taux de reprise. Donc, le taux de reprise, c'est lorsqu'on vient de planter, c'est est-ce que l'arbre prend derrière? Donc, en général, on commence à compter les arbres vivants au printemps qui suit. Et nous, on s'est dit, mais avec le printemps sec qu'on a, ça va être une hécatombe. Et le jour où le confinement s'est arrêté, on a foncé avec la voiture, on est arrivé sur le terrain. Il faisait une journée magnifique ce jour-là. Et j'arrive vers les arbres, et qu'est-ce que je vois? Je vois tous les arbres qu'on feuillait, tous les arbres en magnifique forme. Et je me suis dit, waouh! 98% de taux de reprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le sol qu'on avait, bon, ben, c'est une terre de pâture, il y avait des chevaux dessus, et il n'avait pas été touché depuis plus de 30 ans. Donc en 30 ans, la vie a le temps de revenir, donc le fait qu'il y ait de la vie dans le sol, des vers de terre, des insectes, du mycélium et tout ça, c'est extrêmement important quand on plante ou quand on sème. Des arbres qui sont sur sol vivant, finalement, survivent beaucoup mieux que si on est sur un sol complètement retourné, qui a été avec des herbicides de tous les côtés, etc. Donc le sol avait aussi beaucoup d'argile, donc l'argile conserve l'eau, donc et ça, ça a aidé aussi à donner de l'eau finalement au plan. Donc voilà, on s'est posé des tas de questions sur la notion de sol, sur comment fonctionne une forêt, et moi j'ai commencé à chercher beaucoup en fait. Et puis on a eu un épisode d'été avec une très très forte sécheresse, et on s'est retrouvés avec nos arbres en manque d'eau. Et là, on s'est dit, bon, on a passé le printemps, est-ce qu'on va passer l'été ? Et donc, on a commencé à faire un appel aux citoyens pour récupérer de l'eau. Donc, on a trouvé tous les contenants qu'on pouvait imaginables, les bouteilles en plastique, tout ce qui était contenant et qui pouvait amener de l'eau était les bienvenus. Et je me souviens même qu'on a passé des semaines à partir à 5 heures du matin de chez nous, nous-mêmes, hein, pour aller chercher dans les poubelles de tri et de toute la commune des bouteilles en plastique qu'on remplissait et qu'on amenait sur le terrain. On a dû ramener plusieurs milliers de bouteilles d'eau pour sauver les arbres. Et beaucoup de gens sont venus sur le terrain pour arroser, pour et les arbres restent en suspens. C'est comme si vraiment ils étaient en train d'attendre. Il y avait un silence extrêmement particulier, avec vraiment cette sensation que les arbres avaient confiance et ils attendaient. Et ils ont tous survécu. Et ensuite, on a passé le terrain en zone sanctuaire, c'est-à-dire que on ne peut aller dans ce terrain que lors de journées d'entretien, on entretient encore les arbres, ou de lors de journées de pédagogie. Moi, quand je vais là-bas, je ressens la vie, quoi. Et la dernière fois qu'on est allé, il y avait un faon qui était né sur le terrain, il y avait une ruche naturelle, il y a des choses qui se passent, la vie revient, en fait. On a acheté deux autres terrains par la suite et un quatrième là cette année. Donc depuis 2019, ça fait 4 ans, on a environ 16 hectares qui ont été achetés par l'association dans 4 départements, et on a bien l'intention d'en acheter d'autres. Et on cherche aussi des porteurs de projets, on cherche dans toute la France, et l'objectif c'est de créer des oasis. Des petits oasis de biodiversité, et puis au fur et à mesure qu'ils vont devenir de plus en plus importants. C'est ça l'objectif. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter. C'est une aventure qui, moi, m'a changée. Moi, quand je suis en contact avec les terrains, quand je suis en contact avec les arbres et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mon rythme qui était beaucoup plus rapide, avec du stress, etc., au contact de la forêt, quelque chose s'est passé. C'est vraiment comme s'il y avait une acceptation du temps qui passe. Et donc, on est calme. C'est comme si la forêt, l'arbre nous disait « ça va aller ». Et moi, j'avais une grande éco-anxiété avant de commencer ça. Et au contact des arbres, au contact de la forêt, je n'ai plus rien. J'ai vraiment comme si une espèce de confiance absolue que la vie trouvera son chemin et que j'accepte complètement d'être portée par cette vie-là, quoi. Je n'ai plus aucune angoisse, plus rien. Il y a plein de gens de tous les côtés qui finalement nous contactent et qui veulent faire la même chose, etc. Il y a vraiment des espèces d'une prise de conscience et quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement de fond qui arrive. Une envie finalement de se dire que collectivement, on peut agir. Et pour moi, ce mouvement de fond va changer les choses. Je crois qu'en fait, la première chose à faire pour moi, c'est d'observer. C'est déjà la base. Et lorsque finalement on va commencer à observer comment font les insectes, les fourmis, les oiseaux, comment ils évoluent, lorsqu'on est en train de pique-niquer ou ne serait-ce que de faire sur sa table de jardin un petit repas, au lieu de se mettre à crier tout de suite, juste regarder la guêpe. Et juste regarder comment elle fait, comment elle vient s'installer, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle vient découper finalement son petit morceau de fruit ou son petit morceau de viande, etc., dans les plats et qu'elle s'envole avec. Et je crois que ne serait-ce que de commencer à observer ça, à juste prendre conscience qu'on est dans un environnement et qu'il n'y a pas de barrière, c'est déjà la base. Pour vraiment reprendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Et sans les autres espèces, on ne peut pas vivre et survivre.
Ça, c'est de l'hydaulique. C'est une espèce de haricot violet-pourpre. Et ça grimpe dans la saison. Et sur ce mur-là, j'en avais jusqu'au toit. Et là-bas, j'arrose les Melotria. C'est un tout petit concombre qui vient du Mexique et qui fait un petit fruit rond, rayé comme une petite mini-pastèque, on dirait. Qu'on appelle ça le melon de souris aussi. C'est une plante sympa pour boire l'apéro. Bon, là-bas, les tomates et tout ça, ça n'a pas besoin apparemment. Ouais, c'est bon. Là, j'ai fini d'arroser. Arroser les semis. Là, il fait 20 en permanence. On est obligé de chauffer. Comme ça, là, les levées se font rapidement. La plante se développe. Moi, je suis Jean-Claude Grelin, la troisième génération. J'ai repris après mon père Olivier, qui est décédé l'année dernière, qui avait repris à son père André-Henri Grelin, qui est l'inventeur de la grelinette aussi, qui a été grainetier avant la grelinette même. Donc à 65 ans, je continue de le faire avec mes gamins, avec qui ont repris la boîte, quoi. Là, j'aime bien voir se développer les plantes. C'est tout. C'est tout bête, hein. J'aime bien voir partir de la graine, voir une plante se développer jusqu'à 4-5 mètres, ou même si elle reste toute petite, c'est pas un problème. Avec une jolie floraison ou des feuillages extraordinaires, eh ben c'est une satisfaction, c'est un plaisir, c'est une fierté un petit peu aussi, de dire tiens, ben voilà, ça marche. On a donné naissance à quelque chose qui est vivant. C'est le fait d'une goutte d'eau, d'un peu de terre, d'une graine, paf, une plante. Voilà. Donc c'est magique, voilà. C'est surtout parce que c'est magique, hein, moi, que ça me plaît. C'est minuscule et c'est puissant. C'est tellement enrichissant en contact de la graine, contact du semis, du végétal et du client aussi, que ça suffit à remplir une vie, quoi, c'est tout. Grainetier, ça veut dire qu'on achète la graine en vrac chez les producteurs qu'on appelle les semenciers. Et on conditionne la graine en sachet sous notre marque. On varie entre 950 à 1100 variétés, quoi. On va semer les fleurs de lune. Le vrai nom, Calonictium aculeatum. Donc ils ont trempé 24 heures dans de l'eau chaude. Donc la graine a ramolli, elle a gonflé aussi. Parce que c'est une graine très dure. Tac. On les met dans un terreau de semis. Voilà. Tac. Mais on les enfonce assez profond. Parce que c'est des grosses graines. Un semis se fait à deux fois l'épaisseur de la graine. Et hop, on recouvre, on tasse par-dessus. Après il faut arroser, puis c'est tout. On referme. Tac. Hop, on les pose. Et puis c'est tout. C'est une très grosse fleur blanche que nous, on cultive parce qu'elle nous intrigue tout le temps. Elle vit une nuit. Tous les soirs, elle s'ouvre à la tombée du jour. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. On voit la fleur se dérouler, s'ouvrir lentement. C'est enroulé comme une vrille, comme ça. Comme si c'était une énorme vis en vrille. Et ça se libère petit à petit, comme ça, en s'ouvrant en étoile, jusqu'à la dimension quasiment d'une main. Hein. C'est une très grosse fleur, la fleur de lune. 15 de diamètre, facile, entre 15 et 18. Et le tube corollaire est aussi long. Le tube qui amène jusqu'à l'ouverture de la fleur, où il y a une petite goutte de nectar qui sort. Et la plante a un parfum, c'est extraordinaire. Très doux, très suave en même temps, mais pas excessif, comme certains jasmins, par exemple, ou comme certains chèvrefeuilles qui sont trop forts, des fois. C'est, je sais pas, il y a du chèvrefeuille un peu dedans. Il y a du jasmin, il y a de la vanille un peu. C'est complexe comme parfum. Quand j'ai vu la toute première s'ouvrir, c'était un été, là, il y a bien 20 ans au moins. Hein. J'étais sur le cul, hein, y a pas d'autre mot. on voit la nature en train de fabriquer une fleur. Et puis ça a un développement monstrueux, quoi. C'est pareil, j'en ai mis contre le mur l'été dernier, là, à côté des doliques. Et elles ont fait la course jusqu'au toit, elles sont rentrées dans le grenier. Ça fait 5 à 6 mètres quoi, de développement dans la saison. C'est trop, quoi. On dirait une bestiole. C'est presque science-fiction, un petit peu, quoi, surnaturel, quoi. Parce que généralement, on les voit pas, les fleurs, s'épanouir. Mais là, on voit la naissance de la fleur. Du coup, ça reste ouvert la nuit, pour ça qu'on l'appelle fleur de lune, jusqu'au lendemain matin, vers les 9, 10 heures le matin, ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de l'exposition.
Et pourquoi elle meurt au matin?
Ah ben ça, c'est le principe de toutes les hypomées, beaucoup. Elle demande une énergie phénoménale pour faire ça. Fleur de lune, ça fait penser à la puissance, à la force végétale. C'est la puissance et la délicatesse. C'est un spectacle, ouais. Mais c'est pour ça que je la fais. Hein. Ah ben ouais, pour me faire plaisir, surtout.
Et vous vous en lassez pas?
Non. Ah ben non. Hein. Ça, je ne suis pas prêt de m'en lasser de cette plante. Il y a eu des années où j'en ai pas eu, par exemple, parce que les gamins me disaient « Ah, laisse tomber, on les vend pas. » Puis finalement, même eux, ils aiment bien en avoir pour eux-mêmes aussi. Eux, ils passent, bon, hop, ah ouais, il y en a une, elle est belle, ouais. Bon, ils en profitent, mais ils vont pas y courir après, quoi. Bon, moi, si je sais qu'elles sont là, ça m'emmerde de rater, parce que ça fait presque pleurer tellement c'est beau, quoi. Dès qu'on finit le semis, hop, on arrose. Et puis on place au chaud après sur le radiateur. Hop, pour que le processus commence à démarrer tout de suite, la germination. Ici, dans le germoir, là, il fait 26. Et puis on les laisse jour et nuit, comme ça. Bon, on va aller faire un coup d'œil, je vais voir les semis là, aromatiques. Les sarriettes, il y a des sauges, il y a de la rhubarbe, de la camomille. J'estime avoir eu de la chance parce que j'ai principalement travaillé dans quelque chose qui me plaît toute ma vie. Donc moi, Bon, ça m'emmerderait de me casser ma pipe du jour au lendemain,
Ça vous est déjà arrivé que votre vie soit fragilisée?
Bah oui, avec l'infarctus, ouais. C'était il y a 2 ans. J'ai senti que ça allait pas, le matin, comme ça. Ça allait pas, j'étais brassé, j'étais mal, quoi. Et puis c'est en allant au médecin, un peu plus tard dans la journée, on m'a dit, ah bah ouais, vous avez fait un petit infarctus. On va vous hospitaliser, puis c'est tout. Ouais, ils m'ont gardé 2 jours, 2-3 jours. temps de faire les analyses, les observations et tout, et puis ils m'ont mis un stent, ils m'ont passé un stent. J'étais en liquidation judiciaire à l'époque. Financièrement, je n'y arrivais pas. Surtout parce que je m'occupais de plantes qui n'étaient pas rentables, quoi. Vous voyez, des fleurs de lune, des fleurs sauvages un peu que j'aimais bien avoir, des variétés comme ça, que moi je trouvais belles, que je pensais que les gens allaient apprécier, et puis en fait ils n'aimaient pas, quoi. La majorité des gens, ils vont aimer les fleurs rouges pétards avec des grosses fleurs. Moi j'aime pas un gros rosier rouge à grosses fleurs, moi j'ai horreur de ça, quoi. J'aime bien certains rosiers tout rouges, mais à petites fleurs, et qui sont très élégantes, plus délicates, un peu plus subtiles, quoi. Il y a eu des moments où ça a baissé, puis on a essayé d'investir, il a fallu réparer le toit de la maison, les trucs comme ça. Les trucs qui nous ont mis dans le rouge, et puis la banque, elle a pas joué, quoi. La banque, elle nous a mis au tribunal, c'est tout. Après, c'était fini, quoi. Après, on se dégrade doucement. Donc le stress, et puis, en fait, comme vous êtes mis en liquidation, bah, vous plantez du monde, quoi. Il y a des fournisseurs qui n'ont jamais été payés. Ouais, c'est pas génial, quoi. C'est un échec. Après, liquidation, c'est terminé, tu n'en peux rien à personne. Après, ça m'a soulagé, mais c'est après ce moment-là que j'ai fait l'infarctus. Peut-être j'ai relâché, et puis ça a lâché. C'est pour ça que maintenant, je relativise tout plein de choses. C'est important, c'est de profiter, comme la fleur de lune, d'une nuit, et puis mourir le lendemain, et puis voilà. Mais bien s'épanouir une nuit. Donc une partie de la vie, ça correspond à une nuit, quoi. Et puis après, ben hop, on plie, et puis au revoir.
C'était Les Semeurs, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jean-Claude et ses enfants Thibaut et Simon, ainsi qu'à Florence, Abel et Cédric Paulès et Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.